Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous persécute, si l'on vous insulte, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, cette homélie sera un peu particulière. Laissez-moi mêler le commentaire de la parole de Dieu et l'évocation du Père Thérien. Vous savez qu'en ce moment, nous sommes en campagne électorale. Je parle des municipales. Et les différents candidats font état de leur programme. Tout ce qu'ils promettent et qu'ils ne réaliseront pas. Et donc, on entend ça en permanence maintenant. Alors, si je cite cela, c'est parce que d'une certaine manière, l'évangile de ce jour est le programme de Jésus. Et dans notre perception de l'évangile, nous ne devons jamais oublier cet appel au bonheur que Jésus adresse à la foule qui est autour de lui et qui inaugure son ministère public. Et pour le coup, le programme de Jésus est rempli de promesses qui se réaliseront. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de tenir compte de cela? Eh bien parce que il faut que nous soyons intimement convaincus, si nous ne l'étions pas, que le christianisme est un appel au bonheur. Pourquoi? Parce qu'il exprime à travers la révélation, il exprime à travers l'enseignement et les actes de Jésus ce que Dieu désire de plus grand pour nous. Dieu veut notre bonheur. Soyons-en convaincus. Et j'entends une petite voix qui me dit Oui, mais enfin, avec toutes les épreuves que nous traversons, mais attendez, les épreuves ne viennent pas de Dieu, que je sache. Dieu n'est pas malveillant, Dieu n'est pas pervers. Et donc, cessons d'imaginer un seul instant que c'est Dieu qui veut le mal qui nous arrive. Ça serait monstrueux de penser ça. D'ailleurs, des gens qui ont pensé ça, parfois, je me demande comment ils pouvaient croire en Dieu encore. Voilà, moi je ne peux pas croire en Dieu si Dieu veut mon mal. Excusez-moi, je ne vais pas donner mon amour à quelqu'un qui veut mon mal. Moi, je donne mon amour à quelqu'un qui veut mon bien et qui m'appelle au bonheur. Et donc ça, c'est peut-être, c'est pour ça que je parlais de programme, c'est la ligne directrice de l'enseignement de Jésus. L'appel au bonheur. Simplement, évidemment, derrière le mot bonheur, on peut mettre tout et n'importe quoi. Tout est le contraire de tout. Jésus nous enseigne le bonheur véritable. Alors, pour passer un peu aussi par le père Thérien, eh bien, je pense que c'est un homme qui était intimement convaincu que le christianisme était la source de bonheur pour les hommes. Et que toute sa vie, il a été un prédicateur infatigable de la bonne nouvelle, du salut. Quand je dis infatigable, si vous l'avez connu, on avait un peu l'impression qu'il était monté sur ressort, le père Thérien. Alors, je peux en parler d'autant plus que la Providence a voulu que je commence mon ministère comme jeune prêtre à Montmartre, avec qui, je vous le donne en mille, le père Thérien. Et donc j'ai passé 5 ans, les 5 premières années de ma vie de prêtre, en compagnie du père Thérien. Et donc j'ai pu constater que c'était un homme qui avait une âme de feu, qui était prêt à tout faire pour annoncer Jésus aux gens qu'il côtoyait, aux gens... Alors, vous imaginez, enfin, vous le savez bien, à Montmartre, le nombre de personnes qui venaient visiter la basilique. Alors, le père Thérien, dans son esprit missionnaire, avait un espèce de grand classeur avec des fiches présentant le Sacré-Cœur dans toutes les langues qui y sont parlées dans par le monde. C'est un peu grand, hein. Et alors, on le voyait avec son classeur en aube, dans les bas-côtés de la basilique du Sacré-Cœur. Et alors, il demandait toujours aux gens « English, espagnol, italien, voilà. Japon. » Alors, le Japon, c'était génial, parce que le père Thérien parlait japonais. Il avait été missionnaire au Japon. Je me rappellerai toujours un jour, quand on célébrait la messe en semaine, mais même le dimanche, mais en semaine en particulier, on sortait du très grand couloir qui conduisait à la sacristie. Donc on parcourait ce couloir pour arriver dans la basilique, pour aller célébrer la messe en allant sur la droite à la chapelle de la Vierge. Et quand on débouchait dans la basilique, on avait devant nous la statue du Sacré-Cœur, la belle statue du Sacré-Cœur en argent. Un jour, j'étais pas très loin, et il y avait 2 femmes qui parlaient devant la statue du Sacré-Cœur. Et le père Thérien est arrivé, il s'est approché, il lui avait... Mais ce qui a été impressionnant, c'est que les femmes l'ont suivi à la messe. Et je pense que c'était des japonaises. Voilà, ça c'est le père Thérien, vous voyez. D'ailleurs, ça vous a fait rire. Parce que c'était ça, le père Thérien. Il saisissait toute occasion qui était donnée pour aller à la rencontre des gens. Alors, revenons un peu plus à la parole d'aujourd'hui. Évidemment que le bonheur que Dieu nous propose... est un peu en décalage par rapport à l'idée que nous nous faisons du bonheur. Qu'est-ce que nous nous faisons comme idée du bonheur ? Oh ben c'est très simple, être riche et en bonne santé. Voilà. Riche et en bonne santé. Si j'ai ça, je suis heureux. Sauf que malheureusement, ou heureusement plutôt, heureusement, ça n'est pas le bonheur. Parce qu'il manque une dimension essentielle. Essentielle. C'est que le bonheur ne peut pas se faire sans le fait de se donner aux autres. Le bonheur ne peut pas exister sans l'amour qui anime notre cœur pour les autres. Sinon, c'est de l'égoïsme, c'est de l'égocentrisme. Je suis très content parce que j'ai tout ce que je veux. Eh bien non, c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, il est nécessairement lié à l'amour du prochain. Et ça, c'est une dimension, évidemment, que tout le monde n'est pas prêt à intégrer. Parce que, évidemment, prendre soin de l'autre, se soucier de l'autre, chercher à aimer l'autre, ça coûte. Ça suppose un effort. Ça suppose de sortir de soi. Ça suppose de renoncer à soi parfois. Et donc tout cela est en contradiction formelle avec l'idée que les gens peuvent se faire de ce que peut être le bonheur. Et pourtant, nous avons raison de penser que le vrai bonheur, c'est celui que Jésus nous annonce. Et ce bonheur, vous l'avez entendu avec moi, ce bonheur, en fait, il est à la fois pour maintenant et pour plus tard. Pour maintenant, parce que les béatitudes sont construites de telle manière que vous avez 2 béatitudes au présent. Donc le présent, c'est bien le temps d'aujourd'hui, hein, c'est bien ça. Hein. Donc 2 béatitudes au présent. La première, et la dernière. Et au milieu de ces deux béatitudes au présent, toutes les autres sont au futur. Ce qui veut dire que le bonheur que nous recevons déjà maintenant en vivant en enfant de Dieu s'épanouira dans la vie éternelle. Et ce bonheur qui est aujourd'hui fragile, parfois vulnérable, ce bonheur sera entier, sera plénier auprès de Dieu. Voilà ce que nous enseigne Jésus. Et tout ce qu'il nous enseigne, ce sont des réalités qui, en fait, nous font exister, non pas simplement par rapport à nous-mêmes, mais par rapport aux autres. Heureux les pauvres de cœur. Heureux les pauvres de cœur. Les orgueilleux n'ont pas leur place. Vous comprenez ? Qu'est-ce que c'est l'orgueil ? C'est considérer qu'on est meilleur que les autres. Et comme je dis souvent, comment puis-je me considérer supérieur aux autres alors que j'ai tout reçu de Dieu ? C'est Dieu qu'il faut remercier, c'est pas moi. Ce que je le suis par la grâce de Dieu. Comment puis-je m'enorgueillir de quelque chose qui ne vient pas de moi ? Alors vous allez me dire, mais alors, est-ce que je suis supérieur aux autres ? Parfois je le suis, voilà. Par exemple, je prêche en ce moment, je me dis que tout le monde ne pourrait pas le faire dans cette assemblée. C'est vrai. Enfin, je suppose. Mais pourquoi est-ce que je prêche ? Quel est le sens de ma prédication ? Ben, c'est de mettre au service le don que Dieu m'a fait pour vous. Donc c'est orienté vers vous. C'est pas pour me dire, oh là là, qu'est-ce que je suis bien. Je peux toujours me le dire, mais ça ne m'apportera pas grand-chose. Ce qui m'apporte beaucoup, c'est de me dire que ce que je dis peut vous être utile, peut vous aider, peut vous faire grandir dans la foi. Oui, ça c'est utile. Et ça, je suis content pour ça. Et je bénis Dieu pour le don qu'il m'a donné. Et donc, tout ce qui est dit est orienté vers les autres. Ceux qui pleurent, ben oui, ceux qui pleurent, ils sont vulnérables. Ce sont des gens qui ont un cœur ouvert. Ce sont des gens qui se laissent attendrir, toucher par la souffrance. Ce ne sont pas des gens hautains qui passent au-dessus de tout ça, en méprisant les autres. Heureux ceux qui pleurent, heureux qui sont capables, ceux qui sont capables d'être touchés par la douleur de l'autre. Qu'est-ce que c'est important ? Et puis, les doux. Écoutez, on en a tellement besoin dans ce monde. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien des gens doux ? Mon Dieu, qu'est-ce qu'on en a besoin ? Et étonnamment, faim et soif de la justice. Mais oui, la justice, c'est fondamental, vous savez. Être chrétien, ce n'est pas laisser de côté la justice et laisser l'injustice proliférer. Ça, c'est pas chrétien. Pourquoi ? Parce que l'injustice, elle blesse, elle fait du mal à des petits qui ne sont pas soutenus. Et donc, la soif de la justice, la faim et la soif de la justice, ce doit être aussi un élément fondamental de la vie du chrétien. Évidemment. Miséricordieux, comme Dieu. Être comme Dieu, miséricordieux. Avoir un cœur pur. Ah, vous savez, un cœur pur, excusez-moi, mais ne mettons pas tout de suite la sexualité dans l'histoire. Hein. Jésus n'était pas obsédé, hein. Vous avez remarqué qu'il en parle très peu de la sexualité hein, dans son évangile. Très peu. Hein. On en parle beaucoup plus que lui. Hein. Quand on écoute les confessions, et on se rend compte parfois quand même que malheureusement, les fidèles sont un peu préoccupés par cet aspect-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le confesser, je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder ça en face, mais c'est comme s'il n'y avait que ça dans notre vie. Mais non, c'est un aspect, mais pas le plus important. Et donc les cœurs purs, c'est pas simplement une question de sexualité. Le cœur pur, c'est un cœur qui ne possède pas l'autre, qui n'a pas la main mise sur l'autre, qui ne veut pas posséder, diriger l'autre, qui ne veut pas contrôler l'autre. C'est ça un cœur pur. C'est un cœur qui laisse l'autre libre. Et puis artisan de paix. Mon Dieu, que les chrétiens le soient de plus en plus dans un monde qui est tellement déchiré par la guerre. Et puis, il y a quand même cette dernière béatitude. Quand même. Jésus n'est pas en train de se présenter aux élections de Paris. Vous comprenez, il ne raconte pas des carabistouilles. Jésus dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. » Et nous sommes prévenus, hein, frères et sœurs, nous sommes prévenus. Jésus nous dit que la vie du chrétien ne sera pas un long fleuve tranquille. Et parfois, pas toujours, mais parfois, nous faisons l'expérience, effectivement, d'être persécutés en raison de notre foi. Enfin, nous, c'est rien par rapport à ce que vivent nos frères et sœurs chrétiens dans certains pays, hein. Allez au Nigeria, voyez ce qui se passe pour les chrétiens. On ne les persécute pas, on les tue. Allez au Pakistan. Allez en Égypte. Là, oui, les chrétiens savent ce que c'est que la persécution. Oserais-je dire que, à chaque fois, ce sont des pays musulmans ? Je n'ai rien dit. Voilà comment Jésus nous appelle au bonheur. Et ce bonheur s'accomplira dans la vie éternelle. Alors, je suis convaincu que le Père Thérien, avec tout ce qu'il était, alors quelle longue vie, hein, 98 ans. Le psaume dit 70, 80 pour les plus vigoureux. Il a pulvérisé les records, hein, 98 ans. Et évidemment, prêtre de nombreuses années. Quel ministère riche, quel ministère au service de ceux à qui il voulait annoncer le Christ. Alors, évidemment, quand j'ai appris la mort du Père Thérien, vous l'imaginez, j'ai prié pour lui, et je l'ai fait ensuite quelques jours. Je suis allé à ses obsèques, à Notre-Dame de Paris, et vraiment, j'ai béni Dieu pour cette âme de feu, j'ai béni Dieu pour cet apôtre, j'ai béni Dieu pour cet homme qui parfois était un peu vigoureux, certes, mais qui était au fond de lui-même quelqu'un qui était passionné de Dieu, passionné des hommes. Alors évidemment, en priant pour lui, j'espère qu'en ce moment, il me regarde déjà assis à la table du royaume. On a le droit de le penser. Je ne dis pas que c'est le cas, je ne suis pas en train de le canoniser, hein. Mais voilà, j'espère qu'il est en bonne voie vers le royaume. Et donc c'est pour ça que nous sommes rassemblés, nous aussi, afin d'intercéder pour lui. Nous le ferons de temps en temps, nous y penserons, à prier pour Monsieur le chanoine Bernard Thérien, un prêtre extraordinaire, un passionné de Dieu.